Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite un très bon sabbat. Nous venons de vivre une partie du plan de Dieu. Il y a d'un côté l'intervention de Dieu et de l'autre côté il y a nos responsabilités personnelles. La Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et nous avons observé la Pâque, où nous avons médité les souffrances et la mort de Jésus-Christ. Si nous sommes baptisés, nous avons accepté ce sacrifice suprême de Jésus-Christ. Nous nous sommes repentis. Et cela nous permet de marcher en nouveauté de vie, de ne plus vivre dans le péché. C'est notre responsabilité. La Pentecôte, c'est le don divin de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. À nous de ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu, à nous de demander à Dieu sa force, son esprit, pour que nous puissions grandir et croître. C'est aussi notre responsabilité. Quand Adam et Ève ont péché, tout a changé. Ils étaient dans un jardin magnifique, où il y avait la paix, il y avait l'harmonie. Adam a pu donner un nom à tous les animaux. Et puis, lorsqu'ils ont péché, le sol a été maudit, il a produit des épines et des ronces, et l'homme a dû travailler à la sueur de son visage. Les relations entre l'homme et la femme étaient altérées. Dieu avait déjà dit à l'homme qu'il fallait pas qu'il mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je cite, « Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Romains, chapitre 5, et le verset 12. Romains, chapitre 5, et le verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, c'est ce que nous venons de voir, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. La Bible précise que le salaire du péché, c'est la mort. Et Adam a amené la mort dans le monde. Le péché a continué à se propager. Et quand nous arrivons à l'époque de Noé, la Bible précise que la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Après qu'Adam a péché, il y a eu, si je puis dire, le règne du péché. Le péché est devenu une seconde nature pour l'homme. Dans Romains chapitre 7, nous voyons la lutte de Paul contre le péché. Et les mots qu'il emploie sont des mots qui sont forts. Il dit dans le verset 14, Romains chapitre 7 et le verset 14, « Mais moi je suis charnel, vendu au péché. » Romains chapitre 7 toujours, le verset 15, « Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. » Verset 20, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Le péché a prospéré. Nous voyons dans Apocalypse avec le quatrième et le cinquième fléau, quand Dieu intervient dans les affaires du monde, que les hommes ne veulent pas se repentir. Ils sont endurcis. Et le péché détruit l'homme. détruit notre caractère si nous ne résistons pas. Donc nous avons vu, à travers la fête des pains sans levain, et déjà avant, l'importance que Dieu attache au fait d'enlever le péché qui nous détruit. Déjà avant la fête des pains sans levain, Dieu nous dit d'enlever le levain de nos demeures. Nous voyons dans Exode chapitre 13 et le verset 7, Exode chapitre 13 et le verset 7, que Dieu souligne le fait d'enlever le levain. Verset 7, on mangera des pains sans levain pendant les 7 jours, on ne verra point chez toi de pain levé. Et Dieu revient, si je puis dire, à la charge, et l'on ne verra point chez toi de levain. Donc Dieu souligne, et ensuite Dieu ajoute, dans toute l'étendue de ton pays. C'est du travail d'enlever tout le levain de tout ce qui nous appartient, que ce soit la maison ou un appartement, peut-être des dépendances, la voiture. Dieu ne voulait vraiment pas de levain sous aucune forme. Et donc la fête des pains sans levain se prépare à l'avance, se prépare physiquement, comme nous venons de voir, c'est du travail, et la fête se prépare aussi spirituellement. Nous regardons nos vies, nous examinons nos vies pour voir où il y a encore du levain, pour pouvoir nous en débarrasser. La fête des pains sans levain est une fête qui ne dure pas un jour, ni deux, ni trois, mais sept jours complets, et le chiffre 7, justement, symbolise ce qui est complet, symbolise aussi la perfection spirituelle. Nous trouvons le chiffre 7 plusieurs reprises dans le livre d'Apocalypse. Nous le trouvons, bien sûr, pour la semaine, les 7 jours de la semaine. À l'époque de la Révolution en France, on a voulu justement changer le nombre de jours dans la semaine. Ça n'a pas duré longtemps, ça n'a pas fonctionné longtemps. Les Russes, en 1929, ont voulu aussi introduire une semaine de 10 jours, qu'ils ont abandonné en 1931. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est ce qu'on disait à ce sujet. On parlait pour instituer donc cette semaine de 10 jours. On parlait des difficultés pratiques en ce qui concerne les cycles biologiques humains et les traditions religieuses. Dieu a créé l'homme pour travailler 6 jours dans la semaine et se reposer le 7e jour. Il a besoin de se reposer tous les 7 jours. C'est son cycle biologique, donné par son Créateur. Dieu veut donc que nous enlevions complètement le levain de nos demeures, et Dieu veut que nous remplacions ce levain aussi complètement, avec des pains sans levain, avec un comportement où il n'y a pas de péché. C'est ça le dessein de Dieu, le but de Dieu, qui devrait aussi être le nôtre. Et nous pouvons prendre cette leçon avec nous. Nous avons eu le temps de méditer avant les pains sans levain et pendant les pains sans levain. Dieu nous a donné 2 jours de fête. Il y a eu aussi le sabbat hebdomadaire. J'arrive maintenant au titre de ce sermon. C'est un titre qui est très court. Et après. Et après. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire après la fête des pains sans levain? Peut-être vous vous rappelez que parfois, après la fête des tabernacles, il y a un sermon qui parle de ce qui se passe après la deuxième résurrection, quand tout le monde aura eu sa chance. Après la période grand trône blanc. J'ai voulu donc faire un peu la même chose avec les pains sans levain, de voir l'après, de voir ce qui convient de faire après les pains sans levain. La période avant les pains sans levain et les pains sans levain constitue un tremplin pour nous, pour que nous puissions progresser, pour que nous puissions aller plus loin, pour que nous puissions croître. Nous savons bien que le Christ nous a libérés, qu'il nous a libérés de la pénalité du péché. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6 et le verset 22. Verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Nous sommes libérés donc de pénalité, nous appartenons au Christ. Dans le même chapitre, la Bible parle de se regarder comme mort au péché. Verset 23, toujours Romains chapitre 6. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. L'aboutissement de la vie d'un chrétien. Verset 7, toujours chapitre 6, c'est le verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. C'est très clair, c'est très explicite. Le Christ nous a libérés de cette pénalité. Il nous a libérés de l'esclavage du péché. Et comme nous venons de voir dans le verset 22, nous sommes devenus esclaves de Dieu, avec pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Le Christ précise très clairement que c'est lui qui nous a libérés de cette pénalité. Nous voyons ceci dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, où le Christ parle de liberté. Nous allons commencer avec le verset, si vous voulez bien, avec le verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Verset 33. Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment, dis-tu, vous deviendrez libres ?» Ils pensaient peut-être qu'ils étaient déjà libres. Verset 34. « en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché, est esclave du péché. Si le péché domine dans la vie de quelqu'un, il est esclave du péché. Verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Là, c'est très clair, c'est très net. Si donc le Fils, le Christ, vous affranchit, vous serez réellement libre. Libre de la pénalité du péché, libre d'avoir une vie abondante, et si on continue sur le chemin étroit, d'hériter de la vie éternelle. Mais le péché est un tyran qui nous tient en esclavage à moins d'être affranchi. Et David, nous connaissons bien le psaume 51, et David, dans le psaume 51, parler du pouvoir du péché. C'est ce que David dit dans Psaume 51 et le verset 7. Psaume 51, verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Il ne voulait pas dire que sa mère a péché en donnant naissance à David, mais il parlait ici de sa nature profonde, de sa nature pécheresse. Il parlait de la réalité de son état. Du reste, ça rejoint ce que nous voyons dans Romains chapitre 7, où Paul dit « Je suis charnel, vendu au péché ». Paul, comme David, abordait la réalité de la situation, de leur réalité personnelle. Et ici, nous voyons que David était honnête, David était lucide, et David était ouvert avec Dieu. Il ne se cachait pas face à la réalité. Du reste, il y a d'autres versets dans ce psaume où nous voyons qu'il employait un langage très complet à propos de sa situation. Verset 3. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Le verset 4. Lave-moi complètement de mon iniquité. Et cela nous rappelle tout ce que Dieu veut nous montrer à travers les pains sans levain, avant les pains sans levain et pendant la période des pains sans levain. Verset 4, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Dans le verset 9, il revient sur ces mêmes thèmes. Purifie-moi et lave-moi. Et nous voyons aussi dans le verset 9 le résultat, s'il est purifié, s'il est lavé, je serai pur et je serai plus blanc que la neige. David s'était détourné de son péché, de ses péchés. Verset 11. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Du fait que David s'était détourné de ses péchés, il pouvait demander à Dieu de se détourner de ses propres péchés personnels. La période des pains sans levain, avant et pendant, est une période d'un grand investissement pour nous en tant que chrétiens. Nous enlevons le levain de nos demeures, nous nous donnons de la peine, ça prend du temps. Nous nous examinons aussi sur le plan spirituel, comme la Bible nous dit de le faire. Nous obéissons donc aux instructions bibliques, à ce que Dieu dit. Nous faisons un nettoyage physique. Ça demande du temps, de l'effort. Et nous avons entrepris un examen de nous-mêmes sur le plan spirituel. Si nous sommes baptisés, nous avons pris la Pâque ayant effectué ces deux choses. Et pendant 7 jours des pains sans levain, nous faisons très attention de ne pas manger du pain qui contient du levain, en pensant au pain sans levain que nous mangeons, qui est chargé de symbolisme en ce qui nous concerne. Et donc tout le processus, le nettoyage avant les pains sans levain, notre examen de nous-mêmes et la semaine des pains sans levain dure bien plus d'une semaine. C'est un investissement considérable, mais c'est pas uniquement un investissement Pour l'immédiat, c'est un investissement à long terme. C'est un investissement qui nous est bénéfique sur le plan spirituel. Et ce que j'ai voulu faire maintenant, c'est de vous montrer l'exemple d'un homme juste, d'un roi juste, que nous trouvons dans 2 Chroniques chapitre 29, qui a observé la fête des pains sans levain, qui a commencé le processus avant la fête de s'examiner, de voir la situation, et nous allons voir la suite. Et nous allons voir ce qui s'est passé après. Nous allons commencer, si vous voulez bien, dans 2 Chroniques, chapitre 29, et le verset 2. 2 Chroniques, chapitre 29, et le verset 2. On parle ici d'Ézéchias, qui était un roi juste. Verset 2. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. Donc, il était zélé, il était droit aux yeux de l'Éternel. À l'époque, il y avait des choses à faire pour être en conformité à la voix de Dieu. Le verset 4, il fit venir les sacrificateurs, les Lévites, qu'il assembla dans la place orientale, et il leur dit, « Écoutez-moi, Lévites, maintenant, sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. » Il fallait enlever ce qui ne devait pas être là, ce qui n'avait pas sa place. Verset 6. Car nos pères ont péché, donc il était conscient du péché à l'époque. Car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné, ils ont détourné le regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ézéchias a pris la mesure de la situation. C'est ce que nous voyons dans le verset 10. J'ai donc l'intention de faire alliance. C'était quelque chose de sérieux, quelque chose de profond. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Il y avait négligence de la part des sacrificateurs et de la part des Lévites. Verset 11. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs, pour lui offrir des parfums. L'exemple d'Ézéchias allait rejaillir sur les Lévites et sur les sacrificateurs. Verset 16. Les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Donc, il y avait un travail physique. Il fallait enlever ce qui était impur. De la même façon que nous enlevons nos demeures avant les pains sans levain, le levain. Verset 16. Les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel et les mirent dans le parvis de la maison de l'Éternel où les Lévites les reçurent pour les emporter dehors au torrent de Cédron. Il y avait la saleté qui s'était accumulée à travers les années par négligence. Verset 17. Ils commencèrent ces purifications le premier jour du premier mois. Le huitième jour du mois, ils entraient dans la portique de l'Éternel et ils mirent 8 jours à purifier la maison de l'Éternel. Le 16e jour du premier mois, ils avaient achevé, juste après la date de la Pâque. Ils se sont donné de la peine. Ils ont procédé à travailler à plein temps pendant à peu près 2 semaines. Et le tabernacle était bien sûr très important à l'époque. C'était le centre de leur culte. Ils ont donc, si je puis dire, beaucoup semé. spirituellement pour enlever les impuretés. Ils en ont fait part au roi, verset 18. Ils se rendirent ensuite chez le roi Ézéchias et dirent, nous avons purifié toute la maison de l'Éternel, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, et la table des pains de proposition et tous ses ustensiles. Ils se sont donnés à fond. Ils ont fait un travail complet pour enlever les impuretés. Et puis, verset 20, nous voyons que le roi intervient. Le roi Ézéchias se leva de bon matin, assembla les chefs de la ville et monta à la maison de l'Éternel. Ils offrirent, dans ce contexte où ils enlèvent les impuretés, pour que la maison de Dieu soit comme il devrait être. Verset 21, ils offrirent 7 taureaux, 7 béliers, 7 agneaux et 7 boucs en sacrifice d'expiation pour le royaume, pour le sanctuaire et pour Juda. 7, nous comprenons bien que le chiffre 7, ça signifie quelque chose qui est complète, ça signifie la perfection spirituelle, et il y avait 7 boucs expiatoires. Ils étaient conscients qu'il y avait péché. Verset 23, on amena ensuite les boucs expiatoires devant le roi et devant l'assemblée. Donc, l'assemblée aussi a participé. On amena ensuite les boucs expiatoires devant le roi et devant l'assemblée qui posèrent les mains sur eux. Ils étaient aussi conscients qu'il y avait donc péché. Le verset 24 est très, très clair, très spécifique. Verset 24, les sacrificateurs les égorgèrent et répandirent le sang au pied de l'autel en expiation pour les péchés de tout Israël. De tout Israël, car c'était pour tout Israël que le roi avait ordonné l'holocauste et le sacrifice d'expiation. Il y avait aussi la réjouissance. C'est ce que nous voyons dans le verset 27. Ézéchias ordonna d'offrir l'holocauste sur l'autel. Au moment où commença l'holocauste, commença aussi le chant de l'Éternel, au son des trompettes et avec accompagnement des instruments de David, roi d'Israël. Verset 28. Toute l'assemblée se prosterna en chantant le cantique, en sonnant des trompettes, le tout jusqu'à ce que l'Holocauste fût achevé. Et quand on eut achevé d'offrir l'Holocauste, le roi et tous ceux qui étaient avec lui fléchirent le genou et se prosternèrent. Ils étaient très impliqués, très motivés, et c'était le commencement de tout un processus. Il y avait la joie, verset 30. Puis le roi Ézéchias et les chefs dirent aux Lévites de célébrer l'Éternel avec des paroles de David et du prophète Asaph, et ils le célébrèrent avec des transports de joie. C'était quelque chose d'intense, de transport de joie, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Ils étaient très engagés, très motivés, et faisaient les choses à fond. Verset 31. Ézéchias prit alors la parole et dit, « Maintenant que vous vous êtes consacrés à l'Éternel, c'était le premier pas, approchez-vous, emmenez des victimes et offrez des sacrifices d'action de grâce à la maison de l'Éternel. » Offrez des sacrifices d'action de grâce. En revenant vers Dieu, ils étaient reconnaissants, ils ont montré leur reconnaissance. Verset 32. Le nombre des holocaustes offerts par l'assemblée fut de 70 bœufs, 100 béliers et 200 agneaux. Toutes ces victimes furent immolées en holocauste à l'Éternel. Ils étaient aussi généreux dans leurs offrandes. Verset 33, et l'on consacra encore 600 bœufs et 3000 brebis. Verset 36. Ézéchias et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait bien disposé le peuple. Que Dieu avait bien disposé le peuple, car la chose se fit subitement. Dieu les a bénis. L'attitude, comme nous venons de voir, l'attitude était bonne, très bonne, et Dieu les a bénis. Et nous voyons que Ézéchias a continué sur sa lancée, il voulait donc enlever les impuretés de la maison de l'Éternel. Nous voyons donc chapitre 30 et le verset 1, ce qu'il a fait par la suite. Ézéchias envoyait des messagers dans tout Israël et Juda, il écrivait aussi des lettres à Éphraïm et Manassé pour qu'ils vinssent à la maison de l'Éternel à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il avait ses yeux sur Dieu. Il était orienté vers Dieu. C'était en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 2, ils avaient discuté ensemble, le roi, ses chefs, et toute l'assemblée avait tenu conseil à Jérusalem, afin que la Pâque fût célébrée au second mois, car on ne pouvait le faire en son temps parce que les sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés en assez grand nombre et que le peuple n'était pas rassemblé à Jérusalem. Il fallait que les conditions soient réunies, que les sacrificateurs fassent leur part. Verset 6. Des coureurs allèrent avec les lettres du roi et de ses chefs dans tout Israël et Juda. Et d'après l'ordre du roi, ils dirent, enfants d'Israël, revenez à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, afin qu'il revienne à vous, reste échappé de la main des rois d'Assyrie. Et nous voyons bien le parallèle avec nous. Nous renouvelons notre engagement au moment de la Pâque. Nous recommençons, pour ainsi dire, un autre cycle spirituel. Verset 7. Il y a toujours des conséquences, que ce soit quand nous nous approchons de Dieu, que nous recherchons Dieu, ou quand nous nous éloignons de Dieu et quand nous péchons. Et c'était le cas ici, mentionné dans le verset 7, ne soyez pas comme vos pères, comme vos frères qui ont péché contre l'Éternel, le Dieu de leur père, et qui les a livrés à la désolation comme vous le voyez. Verset 8. Ne raidissez donc pas votre cou comme vos pères, donnez la main à l'Éternel, venez à son sanctuaire qu'il a sanctifié pour toujours, et servez l'Éternel votre Dieu pour que sa colère ardente se détourne de vous. La période avant la Pâque, c'est une période quand nous nous humilions devant Dieu. Quand nous recherchons Dieu, en recherchant où nous péchons. Et en changeant dans ce domaine. Verset 9. Si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont emmenés captifs et reviendront dans ce pays, car l'Éternel, votre Dieu, est compatissant et miséricordieux. Il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. Quand nous nous détournons de nos péchés, Dieu est miséricordieux. Dieu est extrêmement miséricordieux avec nous. Dans le pays d'Éphraïm, Manassé et Zabulon, on se moquait d'eux, mais nous voyons dans le verset 11, cependant quelques hommes d'Azer, de Manassé et de Zabulon s'humilièrent et vint à Jérusalem. Le résultat de tout ceci, nous le trouvons dans le verset 13. Un peuple nombreux se réunit à Jérusalem pour célébrer la fête des pains sans levain au second mois. Ce fut une immense assemblée. Et donc, il y avait ce zèle. Ils se sont donnés à fond pour revenir vers Dieu. Le peuple qui était à Jérusalem à ce moment-là. Nous avons vu que le peuple était impliqué, était conscient qu'il y avait péché. Ils sont venus, sont réunis pour célébrer la fête des pains sans levain, le deuxième mois. Et dans le verset 14, nous voyons qu'ils avaient toujours ce même zèle. Ils avaient un esprit de rejeter tout ce qui était mauvais. Verset 14. Ils se levèrent et ils firent disparaître les autels sur lesquels on sacrifiait dans Jérusalem et tous ceux sur lesquels on offrait des parfums et les jetèrent dans le torrent de Cédron. Verset 15. Ils immolèrent ensuite la Pâque, le 14e jour du second mois. Il y avait des gens d'Éphraïm, de Manassé, d'Issacar et de Zabulon qui ne s'étaient pas purifiés. Ensuite, nous lisons à la fin du verset 18, « Mais Ézéchias pria pour eux en disant, « Veille l'Éternel qui est bon, pardonnez à tous ceux qui ont appliqué leur cœur à chercher Dieu. » Ils ont donc appliqué leur cœur à chercher Dieu. On voit ici leur disposition d'esprit. Nous voyons leur orientation d'esprit. Veille l'Éternel qui est bon. Pardonnez à tous ceux qui ont appliqué leur cœur à chercher Dieu. L'Éternel, le Dieu de leur Père, quoi qu'il n'ait pas pratiqué la sainte purification. Et le verset 23. Toute l'assemblée fut d'avis de célébrer sept autres jours, tellement ils étaient enthousiastes, tellement ils étaient orientés vers Dieu, et ils célébrèrent joyeusement ces sept jours. Ils les ont célébrés même dans l'abondance, verset 24, car Ézéchias, roi de Juda, avait donné à l'assemblée 1000 taureaux et 7000 brebis, et les chefs lui donnèrent 1000 taureaux 10 000 brebis et des sacrificateurs en grand nombre s'étaient sanctifiés. Toutes les conditions étaient réunies pour avoir une fête magnifique, la fête des pains sans levain. Verset 25. Toute l'assemblée de Juda et les sacrificateurs et les lévites et tout le peuple venu d'Israël et les étrangers venus du pays d'Israël établis en Juda, se livrèrent à la joie. Il y avait un esprit de corps, il y avait cet ensemble, et tout le monde se réjouissait, parce que ils avaient le cœur bien disposé, parce qu'ils ont fait ce qu'il fallait faire. Verset 26. Il y eut à Jérusalem de grandes réjouissances, et depuis le temps de Salomon, fils de David, roi d'Israël, rien de semblable n'avait eu lieu dans Jérusalem. Les sacrificateurs et les lévites se levèrent et bénirent le peuple, et leur voix fut entendue et leur prière parvint jusqu'aux cieux, jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel. Dieu a entendu leur prière. Dans le chapitre 31, nous arrivons au cœur de la réponse à la question « Et après ?» Et après les pains sans levain, qu'est-ce qui s'est passé après la Pâque et les pains sans levain à l'époque d'Ézéchias? Chapitre 31, le verset 1. Lorsque tout cela fut terminé, donc les pains sans levain, tous ceux d'Israël qui étaient présents partirent, ils avaient déjà nettoyé, ils avaient déjà enlevé des choses à Jérusalem, c'est ce que nous venons de voir dans le chapitre 30. Mais ici, ils sont allés plus loin. Tous ceux d'Israël qui étaient présents partirent pour les villes de Juda, et ils brisèrent les statues, abattirent les idoles, et renversèrent entièrement les hauts lieux et les autels dans tout Juda et Benjamin, et dont Éphraïm et Manassé. Ils sont même allés plus loin que uniquement dans les villes de Juda et de Benjamin. Et dont Éphraïm et Manassé. Autrement dit, ils avaient gardé ce zèle, et ce zèle qui a commencé avant les pains sans levain, a continué après. Et c'est ça la réponse à la question. Et après la fête des pains sans levain, c'est le fait de maintenir cet élan, de maintenir ce zèle et de continuer justement le travail d'enlever le levain de nos vies. Là, ils ont enlevé, ils ont brisé ce qui était mauvais, ce qui faisait pécher des gens. Puis, tous les enfants d'Israël retournèrent dans leur ville, chacun dans sa propriété. Ils sont retournés chez eux, mais ils ont continué à enlever le levain. Tout ce qui était néfaste, tout ce qui n'était pas de Dieu, tout ce qui était le culte des faux dieux, les idoles, les statues, les hauts lieux et les autels. Ils les ont détruits. Ils ont fait un grand travail après les pains sans levain. Pas uniquement est-ce qu'ils ont détruit le levain, si je puis dire, mais ils ont aussi pratiqué les pains sans levain. Ils ont suivi la voie de la justice, la voie de Dieu. Verset 4. Et il dit au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner la portion des sacrificateurs et des lévites, c'est donc Ézéchias qui parle, afin qu'ils observassent fidèlement la loi de l'Éternel. Lorsque les choses furent répondues, les enfants d'Israël donnèrent en abondance les prémices du blé, du moût, de l'huile, du miel et de tous les produits des champs. Ils apportaient aussi en abondance la dîme de tout. Ils étaient fidèles. Ils ont observé fidèlement la voix de Dieu. Verset 9. Ézéchias interrogea les sacrificateurs, les lévites au sujet de cet état. Alors le souverain sacrificateur Azaria de la maison de Tsadok lui répondit, « Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple. Le peuple était fidèle, le peuple observait la loi de Dieu et Dieu les a bénis. Car l'Éternel a béni son peuple et voici la grande quantité qu'il y a de reste. » Verset 12. On y apporta fidèlement les offrandes, la dîme et les choses saintes. Le lévite Conania en eut l'intendance et son frère Shimaï était en second. Verset 15. Dans les villes sacerdotales, Éden, Minjama, Josué, Shemaja, Amaria et Shekania étaient placés sous sa direction pour faire fidèlement les distributions à leurs frères, grands et petits, selon leur division. Il y avait aussi la fidélité dans la gestion de ces biens. Et le verset 18, nous retrouvons la même chose. À ceux de toute l'assemblée enregistrés avec tous leurs petits enfants, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, car ils se consacraient fidèlement au service du sanctuaire. Il y avait la fidélité partout. Ils observaient spirituellement la fête des pains sans levain après la fête des pains sans levain. Verset 20. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Il agit de tout son cœur. Et nous voyons bien que le peuple a suivi. Il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Quand vous accélérez avec une voiture, vous consommez beaucoup plus de carburant que quand vous roulez à une vitesse de croisière, quand vous maintenez votre vitesse. C'est la même chose avec un vélo. Quand vous accélérez, vous dépensez plus d'énergie que si vous maintenez une vitesse régulière. Et là, ils ont donc maintenu cet élan, ils ont maintenu cette vitesse. Ils ont continué à la fois d'enlever le levain, si je puis dire, et aussi à pratiquer la voix de Dieu, à être fidèle avec la voix de Dieu. Et maintenant que la fête des pains sans levain est derrière nous pour cette année, c'est ce qui convient de faire, d'enlever, de continuer à enlever le levain et aussi d'être fidèle à la loi de Dieu, de maintenir notre zèle et de maintenir cet élan. À l'époque d'Ézéchias, les gens n'ont pas perdu le fruit de leur travail. Un travail qui a commencé avant la Pâque, qui a continué au moment de la Pâque et qui a continué après les pains sans levain, comme nous venons de voir. Cet concept de ne pas perdre le fruit de leur travail, nous le retrouvons dans le Nouveau Testament. Nous le retrouvons dans 2 Jean et le verset 8. 2 Jean et le verset 8. Si vous regardez le verset 7, le contexte, c'est des séducteurs, mais je veux prendre le principe qui est évoqué dans le verset 8, principe qui s'applique aussi pour nous, c'est valable pour chacun d'entre nous. Verset 8, prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Comme j'ai dit, c'est valable pour chacun d'entre nous. Nous nous sommes examinés avant la Pâque. Nous avons vu des choses que nous n'avons pas vues auparavant. Pendant les pains sans levain, nous avons pu méditer pendant 7 jours. Nous avons eu, pendant les pains sans levain, 3 sabbats, 2 sabbats annuels et le sabbat hebdomadaire. Ce sont des pauses dans notre vie de chrétien où nous avons été instruits, où nous avons appris, où nous avons été fortifiés spirituellement, et nous avons tellement, tellement investi pour cette période de l'année. Déjà avant la Pâque, avec ce grand travail pour enlever le levain de nos demeures, ça demande du temps, ça demande de l'effort. Nous avons observé pendant 7 jours les pains sans levain. Nous avons été diligents, nous avons médité et nous nous sommes consacrés à la voix de Dieu. C'est à nous, justement, de ne pas perdre le fruit de notre travail pour que nous puissions recevoir une pleine récompense, de continuer avec ce que nous avons commencé avant la fête des pains sans levain. Nous avons renouvelé notre engagement au moment de la Pâque, à nous de continuer sur cet élan, de continuer à se consacrer à Dieu. Dieu nous a appelés individuellement, sachant que nous pouvons réussir. C'est vrai que la Bible dit qu'il n'y a ni beaucoup de sages sans la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Nous lisons aussi que Dieu a choisi les choses faibles du monde. Et c'est vrai que nous sommes faibles, mais avec l'aide de Dieu, nous pouvons réussir notre vie de chrétien. Dieu le sait et nous pouvons le savoir aussi. Malgré nos erreurs, malgré nos faiblesses, nos lacunes, si Dieu vit en nous, nous pouvons, nous allons progresser, nous pouvons, nous allons vaincre, et nous allons surmonter et nous allons réussir notre vie de chrétien en laissant le passé, les péchés derrière nous. De ne pas avoir travaillé en vain. Spirituellement, la fête ne s'est pas arrêtée le dernier jour des pinceaux levains. Tant que nous sommes un être humain, nous allons voir le péché chez nous et la lutte continue. La lutte va continuer tant que nous sommes un être humain. Mais nous avons pu réfléchir, nous avons pu méditer, nous avons pu nous imprégner de la signification des pains sans levain. Et Dieu sait aussi que nous ne pouvons pas y arriver tout seul. Nous aussi, nous savons que nous ne pouvons pas y arriver tout seul, et c'est pour ça que Dieu nous donne son Saint-Esprit. Dieu nous donne son Saint-Esprit pour nous aider. Comme c'est marqué dans la Bible, il vous donnera un autre consolateur. Et ça nous amène à la prochaine fête de l'Éternel, la fête de la Pentecôte.